Bonsoir, c'est le temps du débat, l'émission de débat de fin de journée qui succède au Grain Amour du lundi au vendredi sur France Culture entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, la course aux armements, une actualité qui est revenue sur le devant de la scène cet été. En plein cœur du mois d'août, en effet, les États-Unis d'un côté et la Russie de l'autre nous ont replongé, pour ceux qui, comme moi, ont vécu les années 1970 et 1980, dans une atmosphère de guerre froide. Le 2 août, en effet, les États-Unis ont décidé de ne plus participer au traité INF ou FNI, selon que l'on parle en français ou en anglais, qui avait été signé en 1987 entre eux-mêmes, les États-Unis et l'URSS, traité qui réglementait les missiles la portée intermédiaire. De l'autre côté, en plein cœur du mois d'août toujours, le 21 août, la Russie a dû avouer qu'une explosion qui avait fait 5 morts dans une usine située dans le Grand Nord russe était bien due à un test sur un missile nucléaire. Ces deux faits, et bien d'autres d'ailleurs, ont un relent de guerre froide, je l'ai dit, en particulier au moment où nous allons commémorer le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, un événement planétaire qui donne lieu à la série de cette semaine de la toute nouvelle émission d'Histoire de France Culture, le cours de l'histoire chaque matin à 9h05. Événement planétaire qui, pour beaucoup, a été facilité par la course aux armements frénétiques des années 80 entre l'URSS et les États-Unis de Ronald Reagan. Qui a les moyens aujourd'hui de relancer la course aux armements? C'est la question que nous allons poser dans le temps du débat jusqu'à 19h avec nos trois invités. Sophie Lefèze, elle est avec nous en duplex depuis France Bleu Basse Normandie à Caen. Elle est docteur en sociologie des techniques et chercheuse associée à l'IRIS et chargée de cours à l'école de guerre. Corentin Brustin est avec nous en studio. Il est docteur en sciences politiques et directeur du centre d'études de sécurité de l'IFRI. Et Antoine Bondaz est chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste de l'Asie, de la Chine et de la Corée. Écoutons cette archive, puisque c'est déjà une archive, le 2 août dernier, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies.
La fin du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, si on la laisse advenir, rendrait le monde moins sûr et plus instable. Cette insécurité et cette instabilité seront profondément ressenties ici, en Europe. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de revenir à la concurrence nucléaire effrénée des jours les plus sombres de la guerre froide.
Voilà, c'est une déclaration du secrétaire général des Nations Unies, justement au tout début de ce mois d'août. Bonjour à vous, Sophie Lefèze, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Bonjour à vous, Antoine Bondaz.
Bonjour.
Et bonjour, Corentin Brustin.
Bonjour.
Alors, est-ce que nous allons retrouver les jours les plus sombres de la guerre froide? Vous n'y croyez pas trop, vous?
Non, j'y crois pas trop. Après, les analogies ont toutes leurs limites. Vous qui connaissez beaucoup mieux l'histoire que moi, vous êtes bien placé pour le savoir. Mais je pense que c'est intéressant de revenir aux origines du concept même de course aux armements et d'essayer d'analyser les différentes composantes, les différentes dimensions d'une course aux armements. Avant de pouvoir parler de course aux armements, il faut regarder la réalité des développements au niveau qualitatif, au niveau quantitatif. Et quand on s'intéresse aux détails, on voit que le paysage est plus nuancé que ce que l'expression pourrait laisser entendre.
Alors, si on fait une référence brève à l'histoire, cette course aux armements, elle date de quoi? De la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin des années 1980 et à la chute de l'URSS?
Elle a été irrégulière, mais vous avez des pics assez saillants. Notamment, ce qui est intéressant de regarder, c'est quand on s'intéresse spécifiquement aux armements nucléaires, c'est au niveau des années, fin des années 50, début des années 60, c'est là que sont atteints, en fait, les pics de construction d'armes nucléaires aux États-Unis. Vous avez des années où les États-Unis produisent 7000 armes nucléaires. 7000. Donc, ça veut dire plus de 600 en moyenne par mois. Aujourd'hui, on pense qu'il y a à peu près 13 000 armes nucléaires dans le monde. Donc la course aux armements, il faut être clair que ça a connu des ordres de grandeur bien supérieurs que ce qu'on connaît aujourd'hui, où on a vu en 30 ans l'Union soviétique se doter de 40 000 armes nucléaires et en 15 ans les États-Unis se doter de quelque chose comme 30 000 armes nucléaires.
Donc c'est la comparaison avec ce moment-là. Ce qui s'est passé tout de même, c'est qu'à un moment, et je l'évoquais dans le tout début de cette émission, à un moment, on s'est dit stop. Alors deux pays se sont dit stop, puisque c'était les deux superpuissances, comme on les appelait à l'époque, les États-Unis et l'URSS. Mmh. Et donc ils ont entamé une désescalade de ces constructions nucléaires, désescalade qui a conduit ensuite au désarmement, à la disparition, en particulier grâce à ce traité signé en 1987, des armes à portée intermédiaire. Qu'est-ce qu'on appelle les armes à portée intermédiaire, Corentin Brustin?
Les armes à portée intermédiaire sont des missiles sol-sol, donc tirés depuis le sol et qui visent des cibles terrestres, d'une portée comprise entre 500 et 5500 km. le traité faisait...
1500 km, c'est une grande intermédiaire.
C'est un intermédiaire assez supérieur. Mais voilà, il fallait tracer des limites. Et les limites, en fait, étaient établies en fonction des traités antérieurs. Donc, les premiers traités de cette désescalade que vous avez évoquée, c'était en 72, c'était le traité Salt, qui n'était pas vraiment un traité de désarmement, mais qui au moins canalisait la compétition. Mais le nombre de têtes nucléaires a continué à grandir après 72 et la signature du traité. Mais... Cette compétition prenait des formes différentes et on continue de voir avec la diffusion des armes auprès de nouveaux États, on voit des types de compétitions qui évoluent avec le temps.
Alors Antoine Bondaz, la grande nouveauté par rapport à cette période, c'est qu'il n'y a pas deux superpuissances, mais des puissances qui sont plus importantes pour certaines que d'autres, mais néanmoins il y a des puissances qui ont surgi entre les années 80 et aujourd'hui sur la scène internationale en matière d'armement et en particulier d'armement nucléaire, et parmi elles, la Chine.
Effectivement, l'intensité de la course aux armements en Asie est peut-être moins importante qu'il y a quelques décennies, de façon paradoxale. C'est-à-dire que les dépenses militaires par PIB, en pourcentage de PIB, sont par exemple plus faibles aujourd'hui, que ce soit en Corée ou en Chine, qu'elles ne l'étaient dans les années 70. La grande différence, c'est que le poids économique de la Chine lui permet d'accroître considérablement son budget militaire. Aujourd'hui, on considère qu'il est à peu près à 250 milliards de dollars par an. Ça représente un peu plus qu'un tiers du budget américain, mais ça réunit surtout, c'est supérieur à l'ensemble des puissances de l'Asie. Océanie, c'est-à-dire vous prenez la Corée, le Japon, l'Inde, l'Australie, le Pakistan, la Chine dépense plus que ces pays-là. Donc on a désormais un acteur militaire majeur dans la région asiatique, ce qui n'était pas le cas, encore une fois, il y a 30 ou 40 ans.
Alors on va y revenir justement sur cet acteur militaire majeur qu'est la Chine, mais nous sommes également avec Sophie Lefèze, vous êtes donc en duplex depuis les studios de France Bleu Basse Normandie à Caen. Vous êtes, vous, spécialiste en particulier de la question de l'argent, pourrait-on dire, de l'industrie, de ce qu'il faut mettre en argent pour pouvoir développer une industrie de l'armement dans beaucoup de pays. Cette question de l'argent est essentielle puisque on a dit effectivement que le coût de cette course aux armements que Corentin Brucelin avait l'air de douter, dont il avait l'air de douter, ce coût dans les années 80 avait été très important pour l'URSS et avait participé à la difficulté de tenir tête aux États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez justement de cet argent nécessaire pour pouvoir justement développer des armements et en particulier des armements nucléaires, Sophie Lefèze?
Alors, je le rejoins sur le fait qu'il faut voir comment est dépensé cet argent. Je pense qu'on parle de course aux armements depuis quelques années parce qu'on regarde l'augmentation en pourcentage des budgets de défense de certains pays. Déjà, à l'échelle mondiale, c'est vrai que ça augmente. La Chine, ça a été multiplié par 4 entre 2000 et 2015. La Russie, par 2. À côté, les États-Unis, qui sont quand même très importants, c'est plutôt plus 40%, donc ça fait figure de tout petit. Donc on a l'impression qu'on se fait rattraper par ces États-là. Mais n'empêche que les États-Unis représentent toujours 40% des dépenses mondiales. Ils sont loin devant les autres, hein, c'est à peu près 650 milliards de dollars. Donc la Chine, on l'a dit, plutôt 200-250 milliards, la Russie plutôt 50. Et les autres pays dans la cinquantaine, la quarantaine, puis ça descend encore derrière. Donc on voit bien qu'il y a quand même un écart qui reste très important. Et cet effet de pourcentage, moi je l'explique en prenant le parallèle avec les notes. Voilà, vous avez un élève qui a 4 sur 20, un élève qui a 15 sur 20. Celui qui a 4, s'il passe à 8, à 16, ça devient x 4. Celui qui a 15 sur 20, il ne pourra pas avoir une augmentation très importante, même s'il passe à 18. Pourtant, 18, il aura toujours plus que celui qui a 16. Donc je pense qu'il faut aussi voir d'où on part. Et se poser aussi la question de ce qu'on achète avec cet argent-là. Si on achète une Twingo ou si on achète une Ferrari, ça n'a pas le même coût. On peut dire, je passe d'une Twingo à une Ferrari, j'ai dépensé beaucoup, mais j'ai toujours qu'une seule voiture.
Et alors c'est justement une des questions que vous posez dans vos travaux, en l'occurrence Sophie Lefèze, c'est de savoir s'il n'y a pas aussi une sorte de norme de normes, en particulier de la part des États-Unis ou peut-être maintenant de la Chine, de ce qui serait la norme nécessaire d'innovation pour pouvoir justement être en tête dans ce grand marché international, pourrait-on dire, de l'armement et de la technologisation encore croissante, régulière, dites-vous, de la volonté des armées de devenir encore plus technique et d'une certaine façon, effectivement, de mettre beaucoup plus d'argent dans ces nouveaux équipements qu'il serait peut-être nécessaire, Sophie Lefèze.
Oui, alors ça aussi, c'est d'être historiquement, quand j'en discute avec les acteurs eux-mêmes, ils me font souvent remonter à la préhistoire en disant que c'est de tout temps qu'on a cette recherche de supériorité technique. Je pense qu'on peut quand même mettre une petite date sur la Première Guerre mondiale, notamment, qui a beaucoup marqué les esprits de l'époque du fait qu'on avait une sorte d'équilibre des forces et la guerre a duré bien plus longtemps qu'on l'aurait souhaité. Et c'est là qu'on s'est dit, le petit plus qui fait la différence, ça aurait quand même permis de l'emporter. Donc ça, c'est attesté dans des rapports de l'époque, notamment des années 20, où ils disent qu'il faut absolument qu'on soit capable de sortir cette arme,
l'arme ultime,
secrète, qui nous permettra de pouvoir l'emporter sur l'adversaire et d'avoir une surprise qui sera plus nécessairement une surprise stratégique, mais une surprise d'ordre technique. Et donc avoir également l'industrie qui va avec pour permettre de la produire et en masse. Et donc ça se voit particulièrement avec la Deuxième Guerre mondiale, avec les fusées V1, V2 et puis d'autres matériels qui sont sortis pour avoir cette supériorité technique-là.
Et vous pensez qu'on est encore dans cette vision donc de l'arme ultime qui permet à certains pays ou qui permettrait à certains pays de gagner un conflit si un conflit se déclenchait? C'est cela qui, selon vous, brouille un peu la vue des dirigeants dans chacun de ces pays pour le choix justement stratégique de faire face à des menaces potentielles?
Alors je lis pas les textes institutionnels chinois ni russes, donc là je pourrais moins me prononcer pour ces deux pays-là. Par contre pour la France, là c'est très très net, il est vraiment marqué qu'il nous faut absolument trouver cette innovation de rupture qui va nous permettre d'avoir cette supériorité technique. On le retrouve aussi en règle générale dans le Royaume-Uni ou aux États-Unis où on a des politiques de soutien à l'innovation qui sont importantes, toujours dans cet esprit d'avoir cette arme que l'autre n'a pas, donc de prendre l'autre de vitesse au plan technique et de pouvoir tirer plus loin, plus vite, d'avoir plus d'informations, etc.
Antoine Mondaz, vous qui lisez justement les langues que ne lit pas Sophie Lefèze, qu'est-ce que vous pensez justement de cette proposition?
Alors, du point de vue chinois, c'est tout à fait exact, même si je pense que le principal n'est pas d'obtenir la supériorité technologique, mais d'éviter justement que l'écart technologique, notamment avec les États-Unis, soit trop important. Et les grands plans d'innovation militaire en Chine commencent à la fin des années 80 en réponse à l'initiative de défense stratégique, le fameux Star Wars du président Reagan, et le principal plan d'innovation, le premier grand plan d'innovation, date de mars 86. Depuis, la Chine considère que la façon dont les États-Unis mènent leur guerre, notamment que ce soit au Golfe, au début des années 90, et ensuite, a un impact considérable sur la façon dont la Chine va à la fois concevoir les conflits et adapter ses plans d'innovation. Plus récemment.
Vous voulez dire que c'est le regard porté par les dirigeants chinois sur ce que font les dirigeants des États-Unis qui compte pour adapter sa propre stratégie d'armement?
Tout à fait. Ils considèrent que les États-Unis sont la référence technologique et sont pour eux la principale menace extérieure, c'est-à-dire en termes interétatiques, et que dans ce cadre-là, il faut encore une fois éviter à tout prix un écart technologique trop important. Et depuis quelques années, on a d'énormes plans d'innovation, un effort extrêmement important mis sur cet axe-là, et notamment ce qu'on appelle l'intégration civilo-militaire. L'objectif pour la Chine, c'est de faire bénéficier aux armées des innovations qui viennent désormais du privé, des start-up et des technologies, notamment de l'information et des géants comme Baidu, Alibaba ou Tencent.
En partant d'un principe, effectivement, que les États-Unis ont fait cela depuis au moins les années 20 et 30, depuis la Première Guerre mondiale et l'entre-guerre. Et qu'en est-il pour la Russie, Corentin Brousselin, puisque dans le coup, on sait que la Russie n'a pas les moyens, justement, de suivre a priori une course aux armements qui redémarrerait. Je crois que la Russie est le sixième pays au monde en dépenses militaires et que nous sommes devant la Russie de peu, mais la France est cinquième donc en dépenses militaires. Donc, pour cette grande puissance qu'était l'URSS, on est passé donc à un régime un tout petit peu plus modeste, pourrait-on dire, Corentin Brousselin.
Oui, assurément, et heureusement quelque part. Donc la Russie n'a certainement pas les moyens de la Chine et certainement pas les moyens des États-Unis. Et je ne lis pas le russe, tiens à le préciser, donc je ne pourrais pas prétendre faire les observations aussi précises que celles d'Antoine sur la Chine. Mais on retrouve des problématiques similaires dans la mesure où ce qui aiguillonne les développements technologiques et les développements militaires russes, c'est aussi ce qu'ils observent du débat américain, ça les obsède en fait. Et la tendance n'est pas du tout récente. C'est-à-dire que vous trouvez, dès les années 70, des innovations technologiques qui apparaissent, tout ce qu'on a vu tester pendant la guerre du Golfe, les munitions de précision, les révolutions de l'informatique, ce genre de choses, ça apparaît dans le débat russe. Eux-mêmes considèrent que ça reflète un potentiel révolutionnaire. C'est le maréchal Ogarkov qui y voit un potentiel révolutionnaire. Les Américains voient les écrits russes. Ils en déduisent eux-mêmes que ça pourrait être quelque chose de révolutionnaire. Ils mettent en œuvre un certain nombre de choses pendant la guerre du Golfe avec des effets assez écrasants pour l'armée irakienne. Et les Russes en sortent absolument convaincus que les Américains sont les leaders et qu'ils ont trouvé des sources d'avantages technologiques et opérationnels écrasantes.
Donc on voit bien qu'il y a toujours cette dimension du rattrapage. On veut rattraper un adversaire potentiel qui serait plus puissant que soi, et donc on va faire en sorte de trouver des armes nouvelles. On a appris donc au mois d'août qu'il y avait eu une usine qui avait éclaté dans le grand nord russe, dans le grand nord russe, et un peu plus tard, eh bien, les dirigeants russes ont avoué que c'était bien une usine qui travaillait sur des missiles nucléaires. Un extrait de la conférence de presse de Vladimir Poutine qui se trouvait à Helsinki. C'est intéressant parce qu'on sait le rôle qu'a joué cette ville d'Helsinki dans les rapports justement de détente dans les années 1970. Elle se trouvait à Helsinki avec le président finlandais. Et il répondait à une question des journalistes sur quelle était la nature de cette usine explosée dans le Grand Nord russe.
J'ai déjà parlé de cette tragédie qui a lieu dans la mer Blanche, qui a malheureusement causé la mort de nos spécialistes. C'était des travaux dans le domaine militaire, c'était les travaux visant au développement des systèmes d'armement futurs. Les gens qui ont péri ont été en train d'accomplir une mission très importante visant à assurer la sécurité de notre pays. Et le fait qu'ils ne sont obligés à y porter une attention particulière maintenant est encore une fois prouvé par le fait que nos partenaires, y compris nos collègues américains, réalisent des essais de nouveaux systèmes d'armement. En ce qui concerne l'échange des informations, nos services respectifs en sont chargés, et d'après les données à ma disposition, tout est normal.
Quand elle explosera, elle produira une quantité assez grande de retombées radioactives pour que dans les 10 mois qui suivront, la surface de la Terre soit aussi déserte que la Lune.
Alors, on n'a plus de docteur Folamour pour pouvoir se moquer justement de cette course aux armements nucléaires comme du temps de Stanley Kubrick dans les années 60. Mais néanmoins, on a l'impression effectivement que dans cette déclaration de Vladimir Poutine, mais on pourrait reprendre de l'autre côté les déclarations de Mike Pompeo ou d'autres dirigeants américains, ça serait à peu près la même chose, qu'il y a nécessité à développer des armements pour la sécurité, dit Vladimir Poutine. Il faut un système d'armes prometteur, et ce système d'armes prometteur, on se pose la question de savoir ce que c'est. Et c'est au cœur de la suppression de ce traité signé en 1987 entre les États-Unis et l'URSS à l'époque, Quentin Prisla.
Sur l'accident de Nilovka. Ouais. Alors, les deux problèmes ne sont pas forcément liés, au sens où le missile qu'on soupçonne avoir été testé le 8 août et qui a explosé, qui est un missile qui est censé être à terme à propulsion nucléaire, a pas vocation, n'était pas interdit par le traité sur les forces nucléaires.
Voilà, il ne fait pas partie de cela.
Lui, il n'était pas dans les missiles.
Il y en a un autre qui, lui, est déjà déployé, existe déjà, qui s'appelle le 9M729. À l'époque, dans les années 70, on connaissait les missiles SS-20, les SS-4, on connaissait les Pershing 1, les Pershing 2. Maintenant, ce sont d'autres noms qui les affublent, ces endroits.
Alors, le SS-20, c'était la désignation OTAN, mais la désignation OTAN du 9M729, c'est le SSC-8. Voilà, si vous voulez, je peux pas rentrer davantage dans les détails, mais on voit effectivement du côté russe, et donc ce missile à propulsion nucléaire, pour y revenir, s'inscrit dans toute une dynamique d'innovation technologique russe, aiguillonnée par un facteur, les défenses antimissiles américaines. C'est-à-dire que les Russes sont obsédés par, et depuis longtemps, hein, depuis l'apparition des défenses antimissiles dans les années 60, ils sont obsédés par une crainte, c'est que les États-Unis, à terme, possèdent la capacité de neutraliser la force de dissuasion russe et de neutraliser en retour, par leurs moyens défensifs, de neutraliser, pardon, par une attaque surprise, la force de dissuasion russe et de détruire en retour, grâce aux défenses antimissiles, les rares têtes nucléaires qui resteraient pour infliger des représailles aux États-Unis.
Ça doit être la mémoire de Barbarossa. Il y a un livre qui sort bientôt sur Barbarossa, un énorme livre de Jean Lopez qui sort bientôt sur Barbarossa. Et on pense effectivement que les Russes sont toujours marqués par l'exemple de Barbarossa, cette opération menée par Hitler contre les Russes.
Et si vous lisez la littérature militaire russe, les revues militaires russes regorgent encore et toujours de références à ce qu'ils appellent la période initiale de guerre, c'est-à-dire l'attaque surprise et donc Barbarossa.
Et le plaquage au sol de l'ensemble de la flotte, en particulier aérienne russe.
Et donc leur préoccupation, c'est de se prémunir face à ça. Et ce missile absurde, le Bourevestnik, donc ce missile qui a vocation à être un jour peut-être déployé...
Pourquoi vous dites qu'il est absurde ?
Parce que la technologie consistant à propulser un missile avec un mini-réacteur nucléaire, c'est instable. C'est une arme, les Russes l'appellent eux-mêmes arme de vengeance, c'est-à-dire ça n'a pas vocation à être utilisé dans le cadre de conflits régionaux. Ça a une vocation à être utilisé pour frapper l'adversaire si toutes les autres options ont été neutralisées en recours ultime.
C'est en fait une arme d'Hollywood, c'est-à-dire c'est quand Hollywood veut décrire effectivement des Russes qui attaquent le reste du monde, eh bien c'est toujours dans cette idée-là que ça se passe.
On va chercher dans ce registre. Et les Russes sont encore plus créatifs parce qu'ils ont également, dans le même discours de Poutine le 1er mars 2018, évoqué un nouveau type de torpille nucléaire avec une tête tellement puissante qu'elle causerait des tsunamis pour pouvoir, là encore, au titre de la vengeance, pour pouvoir engloutir les villes américaines si jamais les Américains en venaient à les neutraliser. Donc on voit que c'est à la fois il y a une dimension interactive évidemment, mais c'est pas les Russes se contentent pas de copier évidemment ce que font les Américains. Ils cherchent à eux-mêmes explorer des champs qui ne sont pas du tout suivis par les Américains, heureusement.
Et des Américains effectivement qui sont désormais en difficulté, pourrait-on dire, dans un espace qui a été conquis pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est l'espace du Pacifique, Antoine Mondaz, parce que effectivement les dépenses chinoises dans ce domaine du nucléaire ou de l'armement stratégique sont bien plus importantes, enfin de plus en plus importantes, et qu'elles font dans cet espace-là, eh bien c'est la Chine qui l'emporte face aux États-Unis. Et ce qui d'ailleurs provoque des craintes de tous les alliés des États-Unis dans la région, et pas simplement de Taïwan, mais l'Australie, le Japon et les autres, commencent à s'inquiéter justement de cette montée en puissance des armements chinois.
Je ne sais pas si la Chine l'emporte déjà. Ce qui est sûr, c'est que la stratégie chinoise est passée d'une puissance continentale qui faisait face à une menace elle-même continentale, septentrionale, soviétique, à une menace de plus en plus maritime, aérienne, et qui vient du sud et de l'ouest et de l'est du pays, c'est-à-dire de sa façade maritime et donc des États-Unis et potentiellement des alliés des États-Unis. La Chine a donc fait évoluer sa stratégie d'une puissance encore une fois purement continentale vers une puissance plus maritime, également aérienne, et le but encore une fois c'est de prendre en compte ce qui est perçu comme une menace américaine.
Alors il faut dire qu'effectivement pendant ce mois d'août les États-Unis ont fait des essais de missiles sol-sol, que ces missiles sol-sol n'a pu être que préparés pendant la période où théoriquement on ne préparait plus de missiles, c'est ce que théoriquement, on pouvait penser à cause de l'application de ces accords de 1987, et que l'idée c'est peut-être de déployer ce missile par exemple sur l'île de Guam, et si il est sur l'île de Guam, il peut atteindre le territoire chinois.
Alors c'est effectivement une des raisons de la sortie par le président Trump du traité FNI. C'est le fait que la Chine ne faisait pas partie, évidemment, de ce traité bilatéral entre les États-Unis et l'Union soviétique, de la même façon que la Chine ne fait pas partie du traité de réduction des armements New START entre les États-Unis et la Russie. Alors l'objectif des États-Unis, c'est soit de trilatéraliser ou multilatéraliser ces traités, soit de faire face tout simplement à ce qui est considéré comme une menace chinoise. Alors la question du déploiement de missiles à portée intermédiaire en Asie se posera relativement rapidement. Il faut tout de même faire attention. Il y a la question des missiles qui seraient potentiellement nucléaires. Et là, les alliés des États-Unis, pour l'instant, refusent le déploiement. Et puis, il y a la question du déploiement de missiles
conventionnelle. Là, encore une fois, pour l'instant, les alliés des États-Unis le refusent. Il faudra voir à plus long terme. Et ce qui est sûr, c'est que la Chine a déjà commencé une campagne dans la région pour menacer les alliés des États-Unis et les dissuader de tout déploiement de missiles américains.
Brièvement, quand on entend pour cela, puis je donnerai la parole à Sophie Lefebvre ensuite.
Oui, très rapidement, pour revenir sur la question. Un point que vous avez souligné, l'essai qui a été fait par les États-Unis reflétait le fait qu'ils avaient engagé de la recherche et du développement tout en étant signataire du traité.
Ce tir a été au mois d'août et c'est ouais. à dire est parti d'une île au large de la Californie. J'ai pas trouvé l'endroit où il a atterri parce que dans le coup ils ont dit qu'ils avaient atteint sa cible à plus de 500
km. Pas précisé volontairement à la fois la portée de l'essai et donc le lieu où la tête est retombée. Néanmoins, la recherche et le développement était autorisé par le traité. Je tenais à le préciser parce que précisément c'est important parce que c'est quelque chose qui est volontairement brouillé dans un discours d'origine essentiellement russe aujourd'hui, qui consiste à dire nous on n'a jamais triché. En fait, les Américains se préparaient depuis longtemps et donc ils trichaient aussi. Et donc les Russes servent systématiquement au plan de la communication à égaliser en fait les choses sur ce plan-là.
Alors Sophie Lefebvre, on a parlé de la Chine, on a parlé de la Russie, on a parlé des États-Unis. Et l'Europe dans tout cela, puisque nous allons nous retrouver peut-être bientôt, s'il y a un Brexit dur, comme on le dit, seule puissance nucléaire, par exemple, dans cette Europe continentale, avec la Grande-Bretagne qui aura quitté cet ensemble politique. Qu'en est-il? Et est-ce que on peut accuser, comme certains le font, l'Europe d'être, disons, un peu les bras ballants et de ne pas être très active dans cette, sinon course aux armements, en tout cas dans ce propos que beaucoup d'autres pays mettent en œuvre vis-à-vis d'un développement de nouvelles techniques, en particulier dans le nucléaire.
C'est vrai que quand on regarde les budgets, la taille des armées, etc., la France et le Royaume-Uni étaient à peu près à égalité et sortaient du lot par rapport aux autres pays européens. Donc c'est vrai que pour la France, avoir le Royaume-Uni avec elle, c'était un atout. Là, elle va se retrouver un petit peu toute seule, parce qu'il y a des avantages et des inconvénients. Les autres pays européens ont tendance, quand on regarde leur politique de défense au niveau stratégique, à se dire que ce qui les intéresse, c'est surtout leur propre sécurité. Donc là-dessus, ils peuvent déjà compter sur l'OTAN pour la grande majorité d'entre eux. Donc il n'y a pas vraiment besoin de faire beaucoup d'efforts là-dessus. La France, comme le Royaume-Uni, a des armées expéditionnaires. Ils aiment bien être là sur la planète, en fait. Pouvoir agir internationalement, ce que réclament moins les autres États.
Et donc justement,
revenir un petit peu sur ce qui a été dit concernant la Chine, j'étais intéressée par les propos parce que, donc si j'ai bien compris, la politique chinoise de défense a aussi une visée économique. Et c'est par ce canal-là au niveau européen, on est en train de s'intéresser de plus en plus aux questions de défense. Voilà, depuis quelques années, il y a une volonté d'avoir un fonds pour financer la R&D de défense. Jusqu'à présent, les États disaient à l'Europe, t'es bien gentil, mais la défense, ça ne regarde que moi. Là, on s'est dit, tiens, ça, qu'il y a quand même moyen de pouvoir faire quelque chose au niveau de la défense, tout en soutenant l'économie des États, donc en soutenant l'innovation technique.
Et donc, vous voulez dire qu'on tente justement, au niveau européen, pour une fois, d'avoir une politique coordonnée qui permettrait la recherche et le développement dans le domaine des nouveaux armements, c'est ce que vous semblez dire ?
Oui, donc il y a un fonds européen de défense qui est en train de se mettre en place. Il y a la PESCO qui permet d'avoir, je crois, aujourd'hui une vingtaine de programmes de recherche européens. Donc sur les pays qui sont volontaires, il y a eu des propositions. Si on travaille sur le char, si on travaille sur la communication, il y a eu un truc, on a dit ça, on prend ça, non. Donc il y a des choses qui sont effectivement en train de se mettre en place et qui vont démarrer. Et paradoxalement, le départ du Royaume-Uni permet d'accélérer sur ce dossier-là, puisque jusqu'à présent, le Royaume-Uni était plutôt en train de freiner en disant à l'Europe de ne pas trop se mêler de ces affaires-là.
Alors, on n'est pas encore au stade du départ définitif du Royaume-Uni,
mais cela dit, le Royaume-Uni s'inquiète parce que justement, il se dit qu'il ne pourra pas bénéficier de cet argent qui va être mis sur la table. Il essaie quand même malgré tout de pouvoir participer à certains projets. On lui rappelle qu'il ne peut pas être à la fois état tiers et partie prenante de tout ce qui se passe au niveau européen.
On se rappelle tout de même qu'effectivement, l'argent peut être le nerf de la guerre, Corentin Brucelin.
Oui, pour revenir sur cet aspect européen et compléter les propos très justes de Sophie Lefebvre, c'est vrai que ça nous met particulièrement dans l'embarras, en fait, cette dynamique. Il faut être clair. C'est-à-dire que l'Europe, elle s'est construite en mettant l'accent sur la puissance de la norme, la puissance du droit, contre la logique des rapports de force. Mmh. Et ça, c'est les valeurs incarnées par les institutions européennes. C'est
les valeurs de paix, évidemment, de paix nécessaire pour justement arrêter la guerre sur le territoire européen, puisque c'est là-dessus qu'on a fondé une sorte d'idéologie commune des Européens.
Absolument. Et c'est cette logique-là, quelque part, qui a trop pris, qui s'est emparé de peut-être certains, de trop de nos partenaires européens. C'est-à-dire que si vous avez au Royaume-Uni ou en France des États qui ont continué à maintenir des forces, à maintenir des capacités militaires dignes de ce nom, dans le reste du paysage européen, c'est un domaine qui a été ravagé pendant 20 ans où
Il y a du rattrapage là aussi.
Absolument, mais c'est
en particulier les pays de l'Est de l'Europe qui réinvestissent massivement dans l'armement, la Roumanie, la Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, etc.
Absolument, mais en 15 ans ou en 20 ans, vous avez eu un désinvestissement massif dans ces capacités-là, et ça fait 4 ou 5 ans simplement que ça commence à infléchir, que la tendance s'infléchit, et vous ne recréez pas les capacités militaires en 4 ou 5 ans. Je ne dis pas que ces pays n'ont rien et que nous sommes seuls, pas du tout, mais que dans cette logique-là, on est quelque part, on s'est retrouvé à rebours des tendances. Pendant longtemps, on voyait le Moyen-Orient qui réarme, l'Asie qui réarme, la Russie qui réarme, les États-Unis qui réarmaient, et l'Europe où les dépenses militaires au mieux stagnaient, elles baissaient.
Une des questions qu'on peut se poser, c'est effectivement, il y a eu un grand moment, et on l'a raconté au tout début de cette émission, de ce débat, où on a pensé qu'il fallait arrêter d'augmenter les dépenses militaires, et puis ensuite des traités qui ont tenter d'appliquer cette logique-là, cette idée-là. Est-ce que vous pensez, Antoine Mondas, que la Chine, par exemple, peut aujourd'hui entrer dans un traité multilatéral? C'est-à-dire, est-ce que cette logique des traités multilatéraux, qui étaient bilatéraux du temps des États-Unis et de l'URSS, pourrait reprendre avec des discussions multilatérales sur la nécessité de ne pas aller trop loin dans une nouvelle course aux armements si elle redémarrait?
Alors, pour ce qui est précisément des traités de contrôle des armements, la Chine refuse aujourd'hui toute négociation avec les États-Unis ou la Russie dans l'idée d'une, encore une fois, trilatéralisation, multilatéralisation des traités précédents. L'explication chinoise, elle est extrêmement simple. Ils considèrent qu'ils ont un retard, notamment quantitatif, vis-à-vis des États-Unis et de la Russie. Si on prend le nombre d'armes nucléaires, par exemple, la Chine en dispose d'un peu moins de 300. Et donc, elle considère qu'un traité de contrôle des armements irait à l'encontre de ses intérêts stratégiques et avantagerait les États-Unis et la Russie. Ça, c'est une idée en fait très ancienne du point de vue des Chinois. C'est l'idée que l'ensemble des traités de contrôle des armements bilatéraux à l'époque visaient indirectement la Chine et visaient, par leur multilatéralisation, encore une fois, à contenir son émergence.
Alors, ça veut dire que quand Mike Pompeo, le chef de la diplomatie états-unienne, dit « nous voulons inaugurer une nouvelle ère de contrôle des armements », en dépassant le cadre américano-russe, eh bien, ça s'adresse directement à la Chine et que la Chine dit non.
Alors, encore une fois, l'objectif pour les États-Unis, c'est de maintenir leur avance non seulement technologique, mais aussi leur primauté militaire sur la Chine. Du point de vue de la Chine, évidemment, l'objectif, c'est de réduire cet écart de puissance entre les deux puissances. Et donc, la Chine ne peut pas accepter le moindre traité, encore une fois, de contrôle des armements. Pour ce qui est, par contre, des traités de non-prolifération, par exemple, là, c'est un autre sujet. Par exemple, la Chine appelle les États-Unis à ratifier ce qu'on appelle le traité d'interdiction complet des essais nucléaires. La Chine l'a signé, ne l'a pas ratifié. Elle demande, par exemple, aux États-Unis de le faire, ce que les États-Unis refusent pour l'instant.
Et qu'est-ce qui explique ces deux fers au feu de la Chine, justement, sur d'un côté la non-prolifération et de l'autre côté le contrôle des armements?
Puisque du côté de la non-prolifération, l'objectif pour la Chine, c'est d'apparaître comme une puissance responsable sur le plan international, alors que sur la dimension du contrôle des armements, l'objectif de la Chine, c'est encore une fois d'éviter que les États-Unis maintiennent un avantage stratégique et militaire trop important.
Quentin Brusselin ?
Non, je pense que cette question de la participation chinoise, ça va être le facteur qui va déterminer ou non s'il y a un avenir à la maîtrise des armements au cours des prochaines décennies. Et c'est une question absolument cruciale. Et la réponse, telle qu'on peut l'identifier pour l'instant, comme vous l'aurez compris, c'est extrêmement décourageant. C'est-à-dire qu'on a toute une structure des traités qui ont été construits, tout ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire cette désescalade, cet apprentissage qui a eu lieu qui reflétait une bipolarité, qui reflétait la tension qui existait entre l'Union soviétique et les États-Unis. Cette bipolarité, en fait, elle n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire que les États-Unis étaient prêts à consentir un certain nombre de contraintes, de limites sur leur propre développement militaire parce qu'ils étaient persuadés que la compétition se jouait avec l'Union soviétique. Aujourd'hui, la compétition, ils sont persuadés qu'elle se joue avec la Chine. Donc, ils ne vont jamais accepter de nouvelles contraintes pour les beaux yeux de la Russie. La Russie, du point de vue américain, c'est tout ce qu'on nous dit quand on va à Washington aujourd'hui, la Russie, c'est plus un compétiteur. C'est une nuisance qui peut être très problématique au niveau régional, mais fondamentalement, militairement, les Américains ne voient pas pourquoi les Européens ont besoin des Américains pour faire face, pour se défendre face à la menace russe. Et donc, progressivement, on a des Américains qui se désintéressent parce que fondamentalement, en face, on a quelqu'un qui n'est pas intéressé qui est encore très loin de la parité.
Antoine Mondin. Deux points très rapidement. À Washington, et Corentin a tout à fait raison, il y a aujourd'hui un consensus sur la menace chinoise. L'idée que cette menace chinoise, elle se diversifie, elle est économique, elle est même désormais de plus en plus idéologique, qu'elle se propage, qu'elle se renforce et qu'elle se concrétise. Et donc, l'idée, c'est vraiment que le développement des capacités militaires américaines doivent faire face à cette montée en puissance chinoise. Du côté de la Chine et en lien avec les traités de contrôle des armements, et c'est un point extrêmement important, les traités de contrôle des armements ont une contrainte importante qui est généralement celle des inspections. Il faut faire des inspections pour vérifier, effectivement, que ces traités sont bien appliqués.
On connaît ça pour l'Iran, par exemple.
Effectivement. Du point de vue de la Chine, c'est un véritable problème, puisque une grande partie des programmes militaires chinois et de la stratégie chinoise s'appuie sur une certaine opacité stratégique. L'idée étant, nous sommes en retard et donc nous bénéficions d'un manque de transparence, puisque cela crée une certaine incertitude du côté des États-Unis qui, in fine, nous est bénéfique.
Et pour vous, Sophie Lefesse, que faudrait-il faire maintenant, par exemple, du côté des Européens pour peut-être jouer un rôle dans un rapprochement possible, dans une question de contrôle des armements, dans une naissance de nouveaux traités qui permettraient peut-être à un moment ou à un autre de faire s'entendre ces belligérants potentiels?
Nous, c'est une question difficile.
Est-ce que la France, on le voit déjà un petit peu avec
l'Iran, on va dire l'Europe, mais c'est quand même principalement quelques pays qui essayent, dont la France, qui essayent justement d'être un peu l'intermédiaire entre les deux, de calmer les tensions, de rassurer les uns et les autres et de sauver des accords.
Oui. Et donc ça, c'est le cas. Et pour ce qui est de la politique française au sein de l'Europe, de l'influence que la France peut avoir au sein de l'Europe, une fois peut-être la Grande-Bretagne partie, c'est un autre jeu à mettre en œuvre.
Alors, vous parlez au niveau nucléaire ou au niveau de stratégie de défense? Alors, pour ce que j'en sais, la France essaye depuis déjà très longtemps de faire bénéficier les autres de son arme nucléaire. Disons que c'est ce qu'elle dit, mon arme vous protège. L'idée étant, puisque mes dépenses vous protègent, ce serait bien si vous pouviez m'aider à participer aussi dans les dépenses pour maintenir cet armement. Mm-hmm. Mais ça n'a pas pris pour
l'instant,
pour ce que j'en sais. Donc, il faudra voir si à l'avenir, les États européens changent d'avis. Moi, j'y crois pas beaucoup.
D'accord. Vous ne pensez pas que effectivement, ce soit la stratégie en œuvre, Corentin Bousselin? Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Sophie Lefesse?
Pas tout à fait. Mais disons que il n'y a pas eu de proposition de, comment dire, ce qu'on appelle une dissuasion élargie, c'est-à-dire un partage à proprement parler, où il n'y a pas eu de proposition de prise en compte du paiement. Mais c'est vrai qu'il y a une volonté, et ça c'est tout à fait juste depuis 40 ans en fait. Il y a toujours eu une volonté d'envoyer un signal aux Européens consistant à dire notre dissuasion n'est pas que française, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pour seule vocation de protéger nos petits intérêts nationaux. Nos intérêts vitaux, on les entend dans un sens qui ne s'arrête pas à nos frontières. Et ça, c'est un discours qui a été constamment réaffirmé. Et effectivement, il y a eu des tentatives, après la guerre froide, des mains tendues pour engager un dialogue avec les Européens au sujet de la dissuasion. Mais effectivement, comme le disait Sophie Lefesse, les Européens n'étaient pas particulièrement intéressés.
Merci à tous les trois. Merci à vous, Sophie Lefesse, et aussi à France Bleu Basse-Normandie qui vous a accueilli dans ses studios à Caen. Merci à vous, Corentin Bousselin et Antoine Mondaz. On peut retrouver sur le site internet du Temps du Débat les ouvrages qui nous ont permis de préparer cette émission. C'était le Temps du Débat qui a les moyens de relancer la course aux armements. Merci à toute l'équipe du Temps du Débat, Chloé Cambrelin, Rémi Baille, Fanny Richer, Hugo Boursier, à la technique, en duplex, Patrick Chaud, Chantelaire, à la vidéo Jean-Guy Lamège, à la réalisation Marie-Laure Ciboulet, à la technique ici Clément Daté. Notre stagiaire était Louise André. Et à l'ordre du jour demain, eh bien, je vous le dis dans un instant.